Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer.
Oh voilà, ben oui, ben, tout ce beau monde-là vient de sortir du studio, ça fait que ça fait un petit peu de bruit, mais c'est bon, on est là. On va parler donc à cette chronique transatlantique, on va rejoindre Christophe Gérard qui est à Paris. Ben faites un petit peu l'extérieur de Paris, mais pour pas mêler les gens, on va juste dire que t'es dans la région de Paris.
OK, c'est ça.
À Mérou, mais quand même.
Dans la grande région parisienne.
Ben, c'est fou, 50 km, c'est quand même pas si loin que ça. Avec les trains chez vous, ça se fait bien.
Oui, ouais. Mais c'est considéré comme la province, c'est pas Paris en fait, là où j'habite.
Bon, alors, mon provincial. On va parler de GPA, Gestation pour autrui, avec le Sénat italien qui vient de voter une loi qui punit lourdement les parents d'enfants nés par la GPA à l'étranger.
Oui, alors le mois dernier, je te parlais d'une circulaire mise en place en France et qui compliquait un peu la vie de parents d'enfants nés par GPA à l'étranger. Ben, l'Italie a fait bien pire que ça et va beaucoup plus loin, hein, puisque le 16 octobre dernier, le Sénat italien a validé un texte qui avait été adopté un an auparavant, en juillet 2023, par l'Assemblée nationale italienne et qui, en fait, donc, vise à interdire la gestation pour autrui aux citoyens italiens qui auraient eu recours à cette méthode à l'étranger. Donc, la proposition de loi portée par Fratelli Italia, donc Frères d'Italie, hein, le parti d'extrême droite de la chef du gouvernement, a été adoptée à 84 votes contre 58, et chose à préciser, hein, sans aucune abstention.
Et qu'est-ce que ça prévoit ce texte-là?
Eh bien, en fait, avec cette nouvelle loi, les couples qui se rendent à l'étranger pour avoir recours à une GPA sont passibles de 3 mois de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et également une amende pouvant aller de 600 000 euros à 1 million d'euros.
Et quand on sait que c'est beaucoup de personnes de nos communautés qui font appel à la GPA, ils sont vraiment à risque. Mais là, cette loi-là n'est toujours pas applicable, hein?
Non, parce que pour qu'elle soit promulguée, il est nécessaire qu'elle soit signée par le président de la République, le démocrate chrétien Sergio Mattarella, mais c'est toujours pas le cas pour l'instant.
Et qu'est-ce que dit l'opposition en Italie?
Alors, si l'on en croit le député de gauche Riccardo Maggi, en fait, ben, lui, il assure que l'opposition va se lancer dans un combat en présentant notamment un recours devant la Cour constitutionnelle. Il déclare que ben, ils vont continuer à se battre pour annuler cette règle, mais aussi pour légaliser la GPA de solidarité en Italie. Et il précise que le corps des femmes et leur liberté leur appartiennent, pas à Giorgia Meloni, pas à ce gouvernement et d'ailleurs à aucun gouvernement à travers le monde.
Juste pour répéter, la Giorgia Meloni, c'est la première ministre d'Italie et elle appartient à la frange de droite. En fait, je pense qu'il se disait néo-fasciste, hein? C'est quelque chose.
C'est ça, c'est ça.
Oui, je continue, Christophe.
Oui, alors, donc en fait, les propos que je viens de citer tranchent vraiment avec ceux de Eugenia Rosella, qui est ministre de la Famille, de la Natalité, et ça ne s'invente pas, de l'égalité des chances, qui estime quant à elle que les gens ne sont pas des objets, que les enfants ne s'achètent pas, et que l'on ne peut pas vendre ou louer des parties du corps humain, et que la pratique aberrante de la GPA est un délit et ne peut plus être contournée grâce à cette loi, qu'elle considère d'ailleurs en la matière que le vote du Sénat place l'Italie à l'avant-garde des nations en ce qui concerne ces lois.
Oh là 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 là. Bon, les lois anti-queer, anti-LGBTQIA+, de Giorgia Meloni, sont saluées par l'extrême droite un peu partout sur le continent européen. Peut-être
ouais,
bientôt aux États-Unis aussi, tant qu'à faire, ouais.
Ouais, et puis alors c'est un petit monde qui se connaît, qui se côtoie, qui s'apprécie. Hein. Donc on peut considérer Giorgia Meloni comme une figure de proue des lois anti-LGBTQIA+, en Europe. Depuis son arrivée au pouvoir, elle a multiplié les prises de position contre la communauté queer et elle se présente comme une mère chrétienne défendant les valeurs de la famille traditionnelle. Elle a des prises de position qui lui ont valu d'ailleurs le soutien de l'extrême droite, comme je le disais, à travers le continent européen. Récemment, c'est le président turc Erdogan qui l'a remercié pour sa position qui soutient la notion de famille et qui défend les valeurs familiales face aux défenseurs LGBT. Alors, on le sait, hein, elle est également proche du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui préside actuellement l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne. La Hongrie, on le sait, hein, n'est pas un des pays de l'Union européenne les plus en avance qui concerne les droits des personnes LGBTQIA+.
Wow. Mais quand même, l'Italie a été affichée, hein, sur la situation des droits humains.
Tout à fait, hein, puisque récemment, il y a un rapport de la communauté, de la Commission, pardon, européenne contre le racisme et l'intolérance qui a dénoncé la situation des droits humains en Italie. Elle estime qu'il existe une xénophobie de plus en plus présente dans le discours public, et ça va plus loin, hein, puisqu'il y a également un discours politique aux connotations de plus en plus clivantes, que ce soit à l'encontre des réfugiés, mais également des citoyens italiens d'origine étrangère, et bien évidemment des personnes LGBTQIA+. Et en ce qui concerne justement les personnes de la communauté queer, l'Italie n'interdit toujours pas explicitement la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, et les personnes LGBTQIA+ subissent des préjugés et des discriminations dans leur vie quotidienne. Et c'est un phénomène qui s'est accentué à l'arrivée de Giorgia Meloni à la tête du gouvernement. Cette dernière s'en prend en effet ouvertement à la bête noire de la droite conservatrice extrême, hein, l'hypothétique lobby LGBT, en prenant notamment des mesures visant à réduire les droits des familles LGBT. L'année dernière, pour information, il y avait une décision de justice qui visait à retirer le nom du deuxième parent, de la deuxième mère pour les enfants nés par PMA en Italie.
Et pourtant, excuse-moi, je te lance là-dessus, mais pourtant, il me semble que le Parlement européen n'a-t-il pas des lois ou adopté des lois qui interdisent ce genre de discrimination envers les communautés LGBTQIA+?
C'est très compliqué. Alors, il y a la possibilité de se pourvoir devant la Cour de justice européenne, mais les dernières lois qui ont été votées, c'est plus une reconnaissance de l'identité de genre pris dans certains pays, hein, puisque j'en avais parlé le mois dernier. Un homme trans avait vu son changement d'état civil reconnu dans son pays d'origine, la Roumanie, alors qu'il avait entamé sa transition en Angleterre. Mais en ce qui concerne la GPA et la PMA, sont des sujets qui sont très, j'allais dire touchy, en tout cas qui sont très clivants en matière de politique et même de pensée en Europe. Donc c'est un peu compliqué encore.
Oui, on va passer donc de la PMA, de la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui, la GPA. On va parler de l'association Stop Homophobie qui a lancé une action devant le Conseil constitutionnel pour obtenir un meilleur accompagnement des victimes. On parle de victimes, j'imagine, de crimes homophobes, là.
Tout à fait. Donc, en fait, l'association Stop Homophobie, c'est une association importante chez nous en France, hein, puisqu'elle défend les droits et les personnes LGBTQIA+. Et parmi ses actions, elle accompagne régulièrement des victimes d'agressions et de harcèlement en se portant partie civile lors des procès. Et par contre, elle conteste une loi qu'elle se trouve trop restrictive, et donc elle a décidé en effet d'intenter une action devant le Conseil constitutionnel.
De quelle loi on parle ici, là?
Alors, il s'agit en fait d'un article qui s'appelle l'article 2-6 du Code de procédure pénale, hein, qui encadre les conditions dans lesquelles les associations LGBTQIA+ peuvent se constituer partie civile lors des procès. Donc, selon le texte, les associations peuvent agir dans certains cas, comme ça, par exemple les discriminations ou les atteintes à l'intégrité physique. Quand on parle d'intégrité physique, on parle de meurtre, de violence, d'actes de torture ou de barbarie. Par contre, on le sait, hein, dans les procès, dans lesquelles le caractère LGBT-phobe est reconnu, il y a d'autres infractions qui sont souvent jugées. Et la loi exclut les interventions des associations telles que Stop Homophobie dans des cas de séquestration, de vol et d'extorsion de fonds, même si ces actes sont souvent motivés par l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des victimes. Donc, depuis quelques années, ici en France, mais je pense que le phénomène est mondial, il y a de plus en plus de guet-apens via des applications de rencontres. Et à l'issue, donc, alors attends, parce que j'ai perdu mon fil. Donc, dans ce genre d'affaires, en fait, l'accompagnement des associations est donc restreint. C'est pourquoi Stop Homophobie a saisi le Conseil constitutionnel d'une question qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Et donc, c'est à Rennes, le 13 novembre dernier, que le Conseil constitutionnel s'est penché sur cette question. Alors, il y avait des avocats, pardon, de l'association qui ont présenté leurs arguments, hein. Donc, selon eux, la présence des associations LGBT, souvent salvatrices, elle contribue à une meilleure appréhension par les juges des modes opératoires, mais également du mobile homophobe qui motive le passage à l'acte. Et elle permet également de faire œuvre de pédagogie auprès des jurés, des accusés et de la cour pour reconnaître la circonstance aggravante d'homophobie, ce qui est rarement le cas, hein, il faut le dire ici en France. C'est pourquoi, en fait, refuser aux associations LGBT ce droit d'intervention revient à une rupture non justifiée de l'égal accès à la justice et donc à l'égalité devant la loi.
Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'en pense le gouvernement français?
Alors, quand il s'agit de questions prioritaires de constitutionnalité, hein, le gouvernement est toujours représenté. Et là, en l'occurrence, cette fois-ci, c'était par Benoît Camguilhem, qui est chargé de mission pour les questions constitutionnelles auprès du secrétariat général. Et donc, il a contesté hein, toute rupture d'égalité et se base sur l'exemple des associations de lutte contre le racisme, qui, tout comme les associations LGBT, n'ont pas la possibilité de se porter partie civile pour l'ensemble des infraction pénale aggravée. Et par ailleurs, en fait, le gouvernement estime que le nombre d'affaires poursuivies pour au moins l'une des trois infractions, donc séquestration, vol ou extorsion de fonds, en raison de l'orientation sexuelle ou d'identité de genre, est limité. En gros, il n'y a pas assez de guet-apens homophobes en France pour justifier d'un changement de règles.
Ouais.
Donc, l'avocat hein, de Stop Homophobie, qui s'appelle Maître Boué Diaconeau, lui a souligné que les chiffres d'actes anti-LGBTQIA+ démontrent qu'on est en face à un phénomène sociétal qui s'aggrave. Les victimes sont de plus en plus la cible d'atteinte aux biens compte tenu de leur orientation sexuelle. Et on se base en fait sur le fait que ce sont des personnes, on va dire, enfin, pour lesquels en fait la commission d'un crime est facilitée. Donc, si on se base sur une enquête qui a été par le magazine Têtu, la réalité en fait c'est au moins un guet-apens homophobe par semaine en France. Et il a noté d'ailleurs hein, que de nombreuses victimes ne portent pas plainte. Et comme je le disais tout à l'heure, le caractère aggravant d'homophobie est rarement reconnu en France.
Oui, c'est assez difficile pour des gens qui sont victimes d'un guet-apens parce que c'est humiliant. C'est arrivé ici, d'ailleurs, au Québec. Il y a eu quelques cas récemment qui ont été médiatisés, mais on ne connaît pas les autres cas qui ne le sont pas parce que les gens ne portent pas plainte. Alors, c'est quoi la décision là, du Conseil constitutionnel finalement?
Ben, la décision est tombée récemment, hein, puisque c'était vendredi dernier, vendredi 22 novembre. Le Conseil constitutionnel s'est basé sur les textes de loi existants, sur la Déclaration des droits de l'homme et sur les réquisitoires des différentes parties, et elle a déclaré que les dispositions légales actuelles étaient conformes à la Constitution. En gros, le caractère anticonstitutionnel de l'article 2-6 du Code de procédure pénale n'a pas été reconnu, et par conséquent, il n'y aura pas de changement de règle.
Ah, bon. Alors, on va changer de sujet. Parlons maintenant de cyberharcèlement. 7 personnes ont été arrêtées dans l'affaire Thomas Joly.
Oui, alors si la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a conquis le monde entier, on en a parlé à plusieurs reprises, on le sait, certains haineux ont également décrié des tableaux de la cérémonie, tels que celui qui s'appelait Festivité, et dans lequel ils ont vu une version queer, donc inadmissible hein, de la scène. Donc ça leur a donné une opportunité supplémentaire de se lancer une nouvelle fois hein, dans leur sport favori, le harcèlement via les réseaux sociaux. Donc à l'issue de la cérémonie d'ouverture, de nombreux artistes queer ont reçu des menaces de mort et des commentaires LGBT-phobes via les réseaux sociaux. C'est le cas du metteur en scène Thomas Joly, hein, qui a expliqué être la cible sur les réseaux sociaux de messages et d'injures critiquant son orientation sexuelle, mais également ses origines israéliennes supposées, à tort, bien évidemment, puisqu'il n'est pas juif. Mais ce caractère a été également dénoncé par les haineux. Donc, des faits qui ont été reconnus assez graves, hein, puisque le parquet de Paris a ouvert une enquête pour cyberharcèlement le 31 juillet.
Une enquête donc qui a porté ses fruits.
Tout à fait, hein, puisque le 22 octobre, on a appris que 7 personnes ont été interpellées par les enquêteurs de l'Office national central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine.
Maintenant, on parle de quel profil là, des personnes qui ont été accusées?
Alors, il s'agit de 6 hommes et d'une femme âgés de 22 à 79 ans, donc un large spectre en niveau âge. Toutes les générations étaient donc participantes à cette campagne de haine en ligne. Selon une source proche de l'enquête, un certain profil était inquiétant. L'un des suspects est d'ailleurs considéré comme un professionnel de la haine. Et on compte également parmi les gardés à vue un candidat des suppléants lors des dernières élections législatives en France sur l'étiquette Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. C'est étonnant.
Oui, il nous reste à peu près 40 secondes. Qu'est-ce que sera la suite de ces arrestations?
Alors, il y a 7-5 des personnes qui vont être convoquées devant le tribunal correctionnel de Paris et elles devront répondre de menaces de mort, d'injures aggravées sur l'orientation sexuelle et religieuse. Et elles encourent jusqu'à 7 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Wow. Ben, on va se reparler le mois prochain parce qu'il y avait d'autres sujets dont on veut discuter, dont évidemment le chemsex, mais on en parlera le mois prochain. Merci beaucoup, Christophe Gérard, à Méru, pas loin de Paris.
Oh, et à très bientôt, Denis Martin.
À très bientôt.